Aujourd'hui, Philippiens chapitre 4. Trouvez dans vos Bibles, sur vos smartphones, Philippiens chapitre 4. Nous avons eu cas commis ce matin, on a parlé de l'Église persécutée. On a parlé de l'Église dans des contextes difficiles. Et souvent, par contraste, on se dit, nous, on a la paix quand même. Ah, Google veut se mêler à la prédication. Oui, on se dit par contraste avec leur situation que la nôtre est quand même profondément paisible et particulièrement tranquille. Et pourtant, en fait, nous sommes aussi, à notre manière, dans un contexte d'opposition à la foi. Si vous avez l'occasion d'élever des jeunes, de les conduire à travers les années collège et lycée dans notre contexte français, vous saurez que élever un enfant dans la foi, c'est l'élever à contre-courant. Vous-même, selon le milieu professionnel que vous connaissez et selon la manière dont vos valeurs sont défiées, vous saurez que c'est aussi vivre sa foi à contre-courant. Nous ne sommes pas clairement dans un contexte d'opposition et de persécution. La direction que prend notre culture ne va pas, au bout du compte, se rejoindre avec celle du Seigneur et du Royaume. Et on peut se poser la question, quelle est notre attitude? Quelle position, quelle posture adopter dans un monde qui ne cherche pas le Seigneur? Et c'est précisément, je vous le rappelle, le contexte dans lequel vivaient ces Philippiens. Les chrétiens de Philippe, habitaient une ville tournée, construite, bâtie autour du culte de l'empereur et de l'empire romain. Et les chrétiens forcément faisaient tache dans le paysage, voire étaient des sécessionnistes par rapport à la culture de l'empire en refusant, en ne participant pas aux dévotions, aux sacrifices, aux prières adressées à l'empereur. Pour vous, dire Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, c'est une expression typiquement chrétienne, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut savoir, que ce sont des titres qui ont, avant Jésus, été attribués à César, puis à Auguste César, son fils. César a été divinisé. Et à partir du moment où César a été divinisé, son fils, Auguste, le premier empereur, s'est fait appeler fils de Dieu. Il y avait une portée politique au fait de déclarer que Jésus-Christ était le fils de Dieu, était le Seigneur et était le Sauveur. Je vous invite à lire avec moi Philippiens, chapitre 4, les versets 1 à 9. Il y a de la musique là. Philippiens 4. Mes chers frères et sœurs, je désire tellement vous revoir. Vous êtes ma joie, ma couronne. Eh bien, très chers amis, tenez bon, restez unis avec le Seigneur. Je t'en supplie, Évodie. Je t'en supplie, Saint-Tic. Vivez en bon accord en restant unis avec le Seigneur. Et toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont en effet combattu avec moi pour répandre la bonne nouvelle, ainsi qu'avec Clément et tous mes autres collaborateurs au service du Christ, dont les noms se trouvent dans le livre de vie. Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit connue de tous. Le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unies avec Jésus-Christ. Et enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable, digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté. Tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Et la paix de Dieu, et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Je vous rappelle pas brièvement le contexte parce que j'ai déjà trop fait puis que je veux aller assez vite ce matin. Simplement vous rappeler que, comme je l'ai dit, cette église connaît non pas forcément un contexte de persécution officielle, mais d'opposition, mais que Paul, lui, est en prison au moment où il écrit cette lettre. Dans ce passage que nous avons lu, il y a trois appels, trois exhortations de l'apôtre Paul. D'abord, un appel à l'unité, particulièrement adressé à ces deux femmes, Évodie et Syntyche, et à travers elles aussi à ce vrai collaborateur dont on ignore le nom, mais je pense que c'est le porteur de la lettre Épaphrodite. Deuxième appel, un appel à la sagesse dans le comportement. Selon vos traductions, vous aurez peut-être que votre douceur soit connue de tous, ou que votre bonté soit connue de tous, parfois aussi que votre comportement maîtrisé ou modéré. Voilà. Et le troisième appel, c'est un appel à se tourner résolument vers ce qui est bon, vrai et juste et à pratiquer, faire le bien. Je dirais les bonnes œuvres. Et je comprends qu'à travers ces trois conseils, Paul, il veut encourager les chrétiens de Philippe à planter fermement leurs racines spirituelles quelque part dans l'Évangile. Dans plusieurs buts, dans le but de grandir dans la foi, dans le but de tenir face à la pression, et dans le but de porter du fruit qui va toucher, bouleverser, interpeller ceux et celles qui les entourent. Planter ses racines dans le royaume pour, je répète, grandir dans la foi, résister à la pression et porter un fruit. Vous vous rappelez, j'avais pris Noah à un week-end d'église, je l'avais fait prendre la position d'un arbre et je lui avais mis des bananes dans la main. Je lui ai dit, voilà, Noah, tu portes du fruit, est-ce que tu peux les manger ? Il avait dit, non, je ne peux pas manger les fruits que je porte. Parce que le fruit que l'on porte, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. L'unité, les trois conseils, l'unité, la sagesse ou la douceur et les bonnes œuvres. Je voudrais vous montrer en quoi ces trois conseils de Paul, d'abord, s'enracinent dans l'enseignement du Christ lui-même, et voir en quoi ces trois conseils de Paul, justement, sont l'attitude, la posture que le chrétien doit avoir face à un monde qui le met sous pression. On pourrait avoir le réflexe de se dire, si le monde m'est hostile, je vais me replier. On va rester entre soi. On va se retrouver entre gens qui pensent de la même chose et on va s'organiser pour lutter, résister et ne pas se faire avoir. L'adversaire, c'est l'ennemi. J'aime beaucoup cette phrase de Pierre Desproges. L'ennemi est bête parce qu'il croit que c'est nous l'ennemi, alors qu'en fait c'est lui. Quel est notre ennemi d'après le Christ? On va voir ça. D'abord, le premier appel de Paul, c'est l'appel à l'unité. Il semble y avoir une dispute entre Évodie et Syntyche. On ne sait pas du tout de quoi il s'agit. La lettre ne nous en parle pas du tout. Mais Paul les invite à se réconcilier. Il les regarde l'une et l'autre, je cite, comme des collaborateurs au service du Christ dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Voilà. Il les regarde comme ses égales. Mais ce qui le désole, c'est qu'il y a une dispute. Elles sont en froid et Paul les exhorte nommément à revenir à l'unité première en Christ. Il y a une chose qui les unit, qui devrait les unir avant leur conflit, avant leur désaccord, une chose même qui les dépasse, qui est plus importante que elles, et dont elles ont hérité toutes les deux, c'est l'amour du Christ. Christ les aime, l'une et l'autre. Jésus a appelé ses disciples à l'amour. Il leur a dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. » Évodie et Saint-Yves sont appelés l'une l'autre à se regarder comme « Je suis aimé de Christ. » Et à considérer l'autre aussi comme « Elle est aimée du Christ. » C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples, a rajouté Jésus. Et il est dit aussi, si une maison est divisée contre elle-même, alors cette maison ne peut subsister. Jésus disait ça lorsque les pharisiens l'accusaient de chasser les démons au nom de Satan. Mais nous pouvons l'appliquer à l'inverse. Si les chrétiens se combattent entre eux, leur maison peut-elle vraiment subsister ? Oui, elle le peut par la puissance du Christ, mais pas grâce à nous. Ayant dit cela, faut-il que Évodie et Saint-Yves s'embrassent comme du bon pain, oublient tout, ne parlent plus de rien, repartent d'un même pied, comme si rien ne s'était passé. On se dit pardon, un gros bisou et hop, tout est réglé. Je ne pense pas. Je crois que, en revanche, l'unité en Christ, à laquelle appelle Paul, doit servir de base pour renouveler une relation, un dialogue. Je reviens vers l'autre en disant, voilà, mon but maintenant, c'est que Jésus gagne. C'est que Jésus est le dernier mot de la discussion que je vais avoir. Je renonce à gagner l'argument, mais je veux que Christ gagne. Et je propose à l'autre la même chose. Cher Évodie, serais-tu d'accord pour qu'on reprenne notre discussion ? Que toi et moi, on se mette au moins d'accord sur le fait que c'est Jésus qui doit gagner. Bien sûr, ça ne marche pas avec des non-chrétiens. Mais entre chrétiens, ça devrait être possible. Plaçons Christ comme premier et vrai enjeu. Et je suis sûr que la grâce du Seigneur viendra. L'unité d'abord. Deuxième attitude, deuxième conseil de Paul, que votre bonté soit connue de tous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous, dit-il. Quelles que soient les circonstances par lesquelles les chrétiens traversent, Paul les exhorte à choisir d'être ce que Jésus appellerait des artisans de paix. D'être connus, d'être reconnus pour choisir la sagesse, la pondération, la réflexion et par-dessus tout, la paix. Paul les encourage à prier dans ce sens, en les assurant que la paix du Christ lui-même leur sera donnée. Une paix qui dépasse même ce qu'on peut comprendre. Donc, chez les chrétiens, nous ne devrions pas trouver de complot, de vengeance, de manipulation, de triche, d'intrigue, de corruption. Mais des artisans de paix, des faiseurs de justice, des promoteurs du bien et de la vérité. Et ça ne devait pas être facile pour les Philippiens dans un contexte de pression où ils sont une espèce de petite minorité acculée par les autres sur le banc, que de ne pas ressentir de l'amertume, que de ne pas chercher à s'organiser pour « mais on va s'en sortir, on va leur montrer que », mais de choisir intérieurement, pour la gloire du Christ, une attitude douce, conciliante, au point d'être reconnu par tous les autres, non-chrétiens, comme des gens doux et conciliants. Christ apprenait à ses disciples à tendre l'autre joue, à ne pas répondre au mal par le mal, à bénir ceux qui les maudissent, à faire du bien à ceux qui les persécutent. N'ajoutait-il pas, Ainsi vous deviendrez les enfants de votre Père céleste, car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et sur ceux qui ne la font pas. Et je rappelle, car cela est important, il ne s'agit pas de se soumettre aux méchants. Il ne s'agit pas de l'autoriser à faire quoi qu'il veuille sur nous. Il ne s'agit même pas, à notre tour, de plonger dans le mal pour faire justice nous-mêmes. David, lorsqu'il n'était pas roi, a toujours béni Saül, mais il l'a fui pour sauver sa vie. Tendre l'autre joue, ça ne veut pas dire rester volontairement sous la coupe d'un tyran. Ça veut dire je renonce à répondre au mal par le mal, mais je réponds au mal par le bien. Le Seigneur Jésus, quand il annonçait le jugement qui allait venir sur Jérusalem, a dit « Fuyez ! Fuyez ! Priez pour que ce soit pas en hiver, pour que vous puissiez fuir. Restez pas, pour rien !» Il existe une différence entre être vainqueur du mal par le bien et, sous prétexte d'être bienveillant, d'accepter qu'on nous maltraite, qu'on détruise, qu'on dégrade l'image de Dieu, que je suis le temple du Christ que je suis, qu'il n'y ait pas de confusion en nous. Nous ne sommes pas appelés à mourir et à souffrir pour rien, mais à vivre pour la gloire du Christ. Et troisième conseil, donc, les bonnes œuvres. Frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable, digne de louange, sur tout ce qui est vrai et qui mérite d'être respecté, dit Paul. Tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi et ce que nous avez entendu dire et faire. Les bonnes œuvres, ce qui est honorable, pur, juste, cela fait encore écho pour moi aux paroles du Christ lorsqu'il dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur un porte-lampe, d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi que votre lumière brille devant les hommes, afin que chacun voit le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux, dit Jésus. Et ce thème sera repris par les apôtres dans les épîtres. L'apôtre Pierre dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. » Tite exhorte pareil. Paul dit à Tite « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Paul aussi écrit « Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui payerai en retour, dit le Seigneur. » Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Tous ces appels de Paul s'inscrivent bien dans l'enseignement du Christ. Et le but est triple, je vous le rappelle, planter ses racines dans le royaume, afin d'être fortifié nous-mêmes, de résister et de témoigner. Quelque part, c'est la vocation de l'Église un peu. Croître en maturité, honorer le Christ et témoigner de l'espérance. Vivre nos désaccords, nous avons des désaccords, mais les vivre, cette diversité d'opinions que nous avons dans l'unité du Christ, si nous arrivons à les vivre dans l'unité du Christ, alors cela nous fera grandir dans l'amour. Cela nous permettra de nous ressembler un peu plus à Jésus-Christ. Prenez deux chrétiens qui ne se connaissent pas du tout et qui ont des opinions théologiques très différentes. Il faudra qu'il fasse un sacré chemin avant de devenir capable de débattre de ces sujets-là sans passion. Prenez deux chrétiens qui sont amis, qui ont grandi ensemble et qui ont des opinions théologiques différentes. Demandez-leur d'en débattre, ça ne posera aucun problème parce que d'abord, ils s'aiment. Christ nous a dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que tous verront que nous sommes ses disciples. C'est donc l'amour qui est premier. Croître en maturité, honorer le Christ et témoigner de l'espérance. À choisir de vaincre le mal par le bien, être des artisans de paix, à vivre le royaume maintenant, même si nous ne sommes pas dans le royaume. Là aussi, cela nous fait croître en maturité, honorer le Christ et témoigner de notre espérance. Cette attitude est une proclamation de l'Évangile dans le monde. Et ainsi, selon Paul, nous sommes une bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et une odeur de mort pour ceux qui périssent. Enfin, nos œuvres bonnes sont l'accomplissement des promesses de Dieu faites à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en Christ et nous, nous sommes en Christ. Par nous, le Christ bénit toutes les nations du monde. Par les œuvres que nous faisons, nous détruisons les œuvres de la chair, à la fois en nous et à la fois autour de nous. Et un jour, ceux et celles qui rencontreront le Seigneur glorifieront Dieu pour ses bonnes œuvres, dont ils jouissent alors même qu'ils nous calomnient. La foi chrétienne renverse les cultures, renverse les civilisations, mais pas à travers des révolutions, de manière subversive, comme un petit peu de levain qu'on mélange à toute la pâte, mais qui fait gonfler toute la pâte. Alors voilà, hop, allez-y, il n'y a qu'à Faucon. Non. Je pourrais peut-être exciter votre sens du devoir. N'êtes-vous pas les enfants de Dieu? Comment pourriez-vous passer à côté d'un tel héritage? Je pourrais peut-être vous culpabiliser aussi, en vous montrant à quel point Jésus a souffert pour vous et que vous pourriez quand même faire un petit effort pour lui. Je veux plutôt vous montrer que ces trois choses, l'unité, la douceur et les œuvres bonnes, quelque part, c'est exactement ce que Jésus est en train de faire maintenant pour vous. Et à quel point ça vous fait du bien. Et en espérant que si vous réalisez à quel point ça vous fait du bien à vous, ça vaut le coup de le faire aux autres. Christ est-il divisé, demande Paul aux chrétiens de Corinthe. Pensons à toutes nos façons, ici, là. On a plein de façons de penser le monde. On a plein de façons de penser l'histoire, on a plein de façons de penser la politique, on a plein de façons de penser la foi, on a plein de façons de lire la Bible, la doctrine, le baptême, la scène, la louange. Imaginons maintenant que Christ choisisse de n'être uni, de ne faire qu'un qu'avec ceux qui sont complètement d'accord avec lui. Je voudrais bien faire un avec toi, mais d'abord, il faut que tu aies tout compris comme moi. Alors nous ne ferons qu'un. Qu'est-ce qui se passe? Où en serions-nous, tous autant que nous sommes? Que nous soyons d'accord ou non sur les choses, la première chose qu'il nous faut désirer, vouloir, c'est la réconciliation. Hein ? Aujourd'hui, l'Ukraine est conduite, plus ou moins forcée, à signer une trêve. La guerre en Israël est en suspens à cause d'un cessez-le-feu. Quoi que vous pensiez de ces choses-là, ces trêves n'auront de fruits que si de part et d'autre, il y a un véritable désir que la paix existe. Être d'accord sur tout n'est pas le prérequis de la paix. Le prérequis de la paix, c'est d'être d'accord pour faire la paix. Christ veut la paix entre lui et nous. Il l'a tellement désiré qu'il l'a signé le traité de paix de son sang, offrant sa vie. Aujourd'hui, il nous appelle à profiter de cette paix, à y demeurer, à la contempler. Réalisons-nous, Dieu nous appelle ses enfants. Hein ? Vous êtes les enfants de Dieu. Amen. Vous êtes les héritiers de la création qui vient. Vous êtes les ambassadeurs, les prophètes, les prêtres. Pour lui. Alors que nous sommes tellement loin d'avoir tout compris. On est même loin d'être d'accord sur tout. De présenter un beau front commun. Et qui a de la foi de la taille d'une graine de moutarde dans cette salle ? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut oublier toutes nos différences, qu'il faut nous culpabiliser de ne pas être d'accord, qu'il faut créer un bon gros déni collectif de tout ce qu'on vit pas bien, et puis de se dire « non mais en fait on est très unis » alors que ce n'est pas vrai. Mais de réaliser que parfois on pose des divisions et on est désunis, non pas parce qu'on ne peut vraiment pas fonctionner ensemble, mais parce qu'on n'est pas prêt à faire la paix. Et qu'il faut peut-être apprendre à veiller, à se surveiller, pour n'être désunis que quand c'est vraiment nécessaire, et quand le Christ n'est plus là. Deuxième chose, la douceur et la bonté. Qu'en est-il de l'attitude du Christ envers nous ? Lorsque nous faisons fausse route, lorsque nous refusons de collaborer avec lui, lorsque nous nous centrons sur lui-même, lorsque nous choisissons notre confort au détriment des autres, lorsque tout en portant son nom, nous le déshonorons, tout en étant reconnu par les autres comme chrétiens, nous ne le reflétons pas. Est-ce que Christ a une attitude douce, conciliante, pleine de bonté envers nous ? Ou est-ce que c'est la colère, l'amertume, la vengeance, la mesquinerie, le silence radio, le mépris, la violence ? Christ se tient-il à distance ? Nous rejette-t-il pour en choisir d'autres ? A-t-il une attitude envers nous qui est calme, posée, patiente ? Travaille-t-il à notre sanctification dans le temps, dans l'espérance, dans l'amour ? Ou est-ce qu'il a recours aux armes de l'ennemi ? Sondez votre cœur. Interrogez l'Esprit Saint qui est en vous. Quel est le choix du Christ ? Pour vous. Troisièmement, les bonnes œuvres. Christ fait des bonnes œuvres. Aujourd'hui, là, je ne sais pas. Chez nous, les théologiens réformés, on a cette expression qui n'est pas toujours connue. On appelle ça la grâce commune. La grâce commune, c'est toutes les bonnes choses que Dieu fait pleuvoir sur la terre, sur tout le monde, les bons et les méchants. Le fait qu'il y ait des médecins qui soient héroïques et qui aillent sauver des vies dans des endroits improbables, le fait qu'il y ait des scientifiques qui fassent des percées, qui découvrent des nouvelles technologies ou des nouveaux savoirs qui aident vraiment la société à aller mieux, le fait qu'il y ait des mécènes généreux qui sont pleins de fric et qui décident de partager avec des pauvres, toutes ces bonnes choses en fait qui arrivent dans le monde des non-croyants, pour nous viennent aussi de Dieu, parce qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et bien sûr, c'est une expression imagée, il fait pleuvoir. Il ne s'agit pas que de la pluie et du soleil. Il s'agit de toutes ces bonnes choses qui arrivent au monde. Alors, nous vivons dans un monde rempli de grâces communes. Les percées scientifiques, technologiques, médicales, culturelles. Et que faisons-nous de toutes ces choses-là accordées par le Seigneur ? Nous, les humains, là je ne parle pas aux chrétiens, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les partage? Est-ce qu'on les multiplie? Est-ce qu'on se sent tellement reconnaissant qu'on se dit « Oh, mais il faut mettre ça en commun ». Allons-nous veiller à ce que chacun ait ce dont il a besoin? Non. L'humanité est une mauvaise intendante des grâces de Dieu. Pourtant, Dieu fait pleuvoir sur tout le monde. Pourtant, Dieu continue de bénir. Pourtant, les saisons se suivent, les récoltes s'enchaînent, le savoir, la connaissance grandissent. Et quand bien même nous n'avons pas la sagesse dans notre intendance, Dieu continue de faire croître ces choses. Et nous continuons de les exploiter, et de les spoiler et de les garder pour nous. Mais il y a encore chez Dieu ici, dans ce monde-là, on voit une persévérance à bénir, une persévérance à bénir et à couvrir ce monde de bonnes choses, tout en continuant de voir une humanité en faire des mauvaises choses. Et que se passe-t-il dans l'Église? Que se passe-t-il chez nous? Voilà plus de 150 ans que Dieu garde cette communauté debout. Elle a connu des divisions, elle a connu des conflits. Elle est passée d'une centaine à une dizaine. Elle est remontée, redescendue, remontée. Elle persévère. Dieu lui maintient sa grâce. Qu'allons-nous en faire? En conclusion, je vous le dis. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et ça ne veut pas dire, bon, je suis dans le Seigneur, donc je dois sourire tout le temps. Non. Ça veut dire, réjouissez-vous d'être unis à ce Seigneur-là. Considérez ce Seigneur-là. Considérez l'unité qu'il vous accorde, malgré tout. Considérez l'attitude qu'il a dans toutes les circonstances que je traverse, où je l'honore et où je ne l'honore pas. Considérez les bienfaits qui tombent encore dans ma vie. Et considérez le fait qu'il ne se lassera pas d'être comme il est. Il n'y a pas un moment où il va dire « Bon, pff, non, Marjorie, je laisse tomber, j'arrête. » Tu vois ? Ou Paul. Il n'y a pas un moment où il va dire « J'en ai marre d'être comme ça auprès de toi, ça ne sert à rien. » Ça, c'est les parents qui le disent. Mais lui, non. Il ne se lassera pas d'être comme il est auprès de nous, même si ça ne sert à rien. Vous imaginez ça? Si vous devez trouver une motivation, une raison de vous mettre à imiter le Seigneur. Trouvez-la dans le « même si ça ne sert à rien ». Parce que pour nous, c'est difficile de le faire envers des illustres inconnus. Pour nous, c'est difficile d'avoir cette posture de bienveillance et de générosité envers des gens qui ne veulent pas du Seigneur. Parce qu'on se dit, un, ils ne le méritent pas. Deux, ils vont nous le renvoyer dans la tronche, mais pas en bien. Puis trois, ça sert à rien. Et considérez l'attitude du Seigneur envers vous. Lui ne se pose pas la question, ça sert à quoi? Lui, il se dit, c'est comme ça que je suis, que je veux être. Je suis ce Dieu et pas un autre. Je suis le Dieu de la bonté, je suis le Dieu de la patience, de la justice, de la vérité, de la fidélité, de la persévérance. Je ne suis pas un autre Dieu. Alors réjouissons-nous d'être unis à ce Seigneur. Amen.